Chapitre 19 La preuve. La mère Langlois, la femme de ménage que par politique les Norbert avaient reprise à leur service, a raconté et même déposé depuis. C'est à la tournée de 10 heures du matin que le facteur des objets recommandés a apporté la petite boîte à Mademoiselle Christine qui a signé sur le registre. Mademoiselle Christine était seule dans la boutique. Je dois dire du reste que depuis 2 jours, je n'avais vu qu'elle. Elle restait là pour répondre aux clients quand par hasard ils s'en présentaient, ce qui était plutôt rare. Elle paraissait très agitée, tourmentée. Elle aurait bien voulu, vis-à-vis de moi, tenir le coup, mais on ne trompe pas la mère Langlois. Ses grands airs me portaient plus, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et ça n'était pas difficile de deviner qu'il s'agissait encore du cousin Gabriel, car maintenant ils étaient tous parents dans cette maison-là, le cousin Jacques, le cousin Gabriel. On ne me cachait plus que le cousin Gabriel habitait la maison et qu'il était très malade, qu'il avait fallu lui faire une opération de toute urgence et qu'on ignorait encore comment tout cela se terminerait, malgré la science et le savoir-faire du carabin qui passait près de lui ses jours et ses nuits. Bon Dieu, m'en avait-on donné des détails sur le cousin Carleiel? Que c'était le fils d'une sœur aînée du vieux Norbert, qu'il avait été condamné par tous les médecins et qu'on tentait l'impossible pour le sauver, etc. Au fond, moi je m'en fichais, qu'ils aient le cousin Gabriel ou non à la maison, mais mon ouvrage n'en était pas augmenté, c'était le principal. Le malade restait au rez-de-chaussée de l'appartement du fond du jardin, dans lequel je ne pénétrais jamais. C'est tout juste si de temps à autre on ouvrait les persiennes et un peu les fenêtres pour donner de l'air. Un jour, j'avais aperçu sous un drap le corps d'un homme étendu, avec une figure tournée de mon côté qui n'avait pas l'air à la noce. Il me regardait de ses yeux fixes comme si je lui devais quelque chose. Sûr, il n'en menait pas large. Pour être malade, cet homme-là est malade, que je me dis. Mais qu'est-ce qui a bien pu l'arranger comme ça? Je l'ai vu autrefois, beau gars et dispo, du temps qu'on ne m'en parlait pas, mais du temps qu'on le cachait à tout le monde. Oh, je vous le dis entre nous, je pensais bien qu'il y avait eu du drame là-dessous, mais chacun ses misères, il faut bien que le pauvre monde vive. Motus, que je me dis, ils sont capables de me rejeter sur le pavé, et je me suis remis à la besogne, comme si de rien n'était. Quand la Christine me racontait quelque chose, j'empochais avec un air bête. Ça ne m'empêchait pas de penser. Toi, ma belle, t'as pas la conscience tranquille. Pour en revenir à l'affaire de la boîte, je vous disais donc que mademoiselle était seule dans la boutique quand elle l'a ouverte. Moi, j'étais dans la salle à manger. Je voyais bien ce qui se passait dans la boutique par la porte entrouverte, mais je ne voyais pas dans la boîte. Mais elle avait déjà les yeux dedans. Ce qu'elle regardait, ben c'est rien de le dire. Elle s'est approchée de la fenêtre. Elle a soulevé un objet qui était entortillé de fil d'argent, mais qui avait quasi la forme d'un pistolet. Mais elle semblait rien y comprendre. Elle a tout replacé dans la boîte, et après un moment d'hésitation, elle a ouvert la porte du jardin et s'est dirigée vers le bâtiment du fond que le vieux Norbert et M. Cotentin ne quittaient quasi plus. Et elle est entrée frapper à la porte du laboratoire. Le vieux Norbert est sorti sur le seuil. Il avait les cheveux ébouriffés comme je lui ai jamais vu. Les yeux lui sortaient de la tête.
Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu sais bien que nous ne voulons pas de toi. Tu es trop nerveuse. Laisse-nous tranquille.
Il avait l'air furieux. Écoute, papa, lui dit l'autre, j'ai encore reçu une lettre de cette malheureuse. Oh, me fiche-tu la paix avec ta vieille folle. Mais l'autre insistait. Et puis un objet recommandé que je voudrais montrer à Jacques. Ah, tu veux tout même pas que je dérange Jacques? Ben dis-lui qu'elle m'a envoyé la preuve, ou l'épreuve, je sais plus. Mais le vieux Norbert, impatient, ne fit que hausser les épaules et lui referma la porte sur le nez. Moi, je ne comprenais rien à ce qui se passait, mais je voyais bien qu'on n'était pas à la rigolade dans la maison, et j'étais sur des charbons ardents. Mademoiselle, toujours en regardant dans sa petite boîte, se laissa tomber sur une chaise dans le jardin. Elle n'y était pas depuis 5 minutes que le carabin la rejoignait. « Qu'y a-t-il, Christine ?» lui demanda-t-il tout de suite. « Tiens, fit-elle, voilà ce qu'elle vient de m'envoyer. » Et elle lui passe à la boîte. Il me tournait le dos, il regardait dans la boîte, moi, je voyais rien. Le docteur dut prendre l'objet en main, il écartait les bras, les repliait et répétait « Oh, c'est curieux, c'est très curieux. Mais enfin, qu'est-ce que c'est ?» demanda Christine. « Eh bien, ça, ma chérie, c'est un trocard. » Oui, il a bien dit trocard, et même il l'a répété. C'est une espèce de trocard. Et qu'est-ce qu'un trocard? Mais l'autre n'a pas répondu tout de suite. Il examinait encore l'objet, paraissait réfléchir. Et tout d'un coup s'écria « Oh, la malheureuse, la malheureuse, la malheureuse! Oh non, ça c'est pas une folle !» C'est elle qui avait raison. Et il ajouta, oh, le bandit. La Christine s'était levée, toute pâle. Mais explique-toi, supplia-t-elle, qu'est-ce qu'un trocard? Trocard, que lui explique l'autre, c'est une aiguille creuse et le pistolet à trocard, c'est une espèce d'instrument de chirurgie qui ressemble à un petit pistolet, enfin, qui fait fonction de pistolet, et qui nous sert à envoyer à travers les chairs de l'abdomen une aiguille creuse, quand nous voulons savoir. « Ah, je comprends !» s'écria Christine. « Comprends-tu ?» reprenait l'autre. « L'instrument que voilà part du même principe. » Il envoie cette aiguille creuse, remplie préalablement de liquide nocif. Oh, il a dit nocif, j'ai encore le mot dans l'oreille. Oh, oui, oui, je comprends, faisait la Christine, qui paraissait atterrée. Mais il l'envoie à distance, expliquait toujours l'autre. Même une assez grande distance. Regarde ce ressort et cette autre disposition de ressort qui accompagne l'aiguille creuse et qui se déclenche aussitôt qu'elle a touché et laissé son venin. Je comprends. C'est ce dernier ressort qui renvoie l'aiguille jusqu'à l'arbre qu'il a projeté. Oui, oui. Tu vois comme l'aiguille est retenue par ce fil de métal? Comprends-tu, comprends-tu? Si elle comprenait. Du reste, ce n'était pas difficile. Moi aussi, je comprenais comment il était fait cet instrument, sans même l'avoir vu. Ça, on peut le dire. Le carabin, pour ce qui est d'expliquer, il explique bien. Oh, il avait pris sa tête toute pâle entre ses mains. Mais il faut la sauver, mais il faut la sauver. Sans doute, tempéra le Cotentin, redevenu des traits calmes. Il faut la sauver. Seulement, moi, je ne puis m'absenter en ce moment. Non, je ne puis pas quitter Gabriel, bien que tout aille pour le mieux. Je ne puis pas vous quitter le travail pendant qu'il est encore tout chaud.
Alors.
Bon, c'est une affaire de 5 à 6 jours.
Mais nous n'avons pas le droit d'attendre 6 jours.
C'est bien mon avis. Tu vas donc aller trouver tout de suite Bénédicte à sa campagne. Et tu me le ramèneras ici sans perdre une heure. Nous causerons et nous déciderons. Là-dessus, il se leva en lui rendant la boîte. Je me sauvais, mon service était fini. J'en avais trop entendu, sans rien y comprendre du reste. Ce n'est qu'après l'histoire de la septième que j'ai commencé à y comprendre quelque chose. Chapitre 20. Ce qu'il advint de la septième. Christine ne put prendre le train pour Corbillière qu'à 2 heures de l'après-midi, et encore elle prit un mauvais train. Elle avait confondu le rapide avec l'express. Elle était dans le rapide qui brûlait Corbillière. Elle ne put s'arrêter qu'à La Roche et y attendre un train omnibus qui remonta vers Paris. Quand elle descendit à Corbillière, il était 7 heures du soir. Elle comptait y rester 3 heures et ramener avec elle Bénédicte Masson par le rapide de 10 heures. À 11 heures, il serait à Paris. La nuit même, il déciderait avec Jacques du plan à suivre, et le lendemain matin, puisque Jacques ne pouvait pas dans le moment quitter Gabriel, elle partirait avec Bénédicte Masson pour Courteret. Elle était bien décidée à sauver la malheureuse qui tant de fois s'était adressée à elle sans être parvenue à se faire entendre. Elle s'accusait d'aveuglement. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu subir si longtemps l'influence néfaste du marquis, et à un point tel qu'elle avait failli, elle aussi, devenir une victime, car enfin elle aussi avait été visée, c'était le cas de dire, et même atteinte. Elle aussi avait été mordue de loin par le monstre. Elle n'avait pas fait un rêve quand elle l'avait vu penché sur elle et aspirant son sang de ses lèvres gloutonnes par la piqûre du rosier. Baiser si hideux qu'elle n'avait pas voulu y croire au réveil. Crime d'un autre âge qu'elle avait rejeté dans le domaine du cauchemar. Oui, mais il y avait eu le chlorure de calcium qui arrêta le sang et le citrate de soude qui le faisait couler. Et il y avait le trocard qui mordait à distance, annihilait à distance. Cela était bien de notre temps. La science à l'usage du vampirisme. Ce vampirisme-là n'était plus qu'un rêve. Ce n'était plus cette chose funèbre, fantomatique et légendaire que les petits esprits modernes repoussaient d'emblée avec dédain. C'était la plus monstrueuse des passions et la plus ancienne, celle du sang humain, servie par la chimie et par la mécanique. Et elle se rappelait la parole de Jacques Cotentin, qui, lui, s'exprimait toujours avec une circonspection et une prudence qu'il avait plus d'une fois trop fait sourire. Le mensonge est moins dans les choses que l'on nous rapporte et que nous ne comprenons pas que dans nos connaissances. Les ténèbres nous enveloppent si impitoyablement que même en tâtonnant, nous bronchons à chaque pas. Corbillières-les-Eaux. Ah, quand elle sortit de la petite gare, et qu'elle se trouva sur la place déserte entre les 4 platanes, d'où l'on découvrait toute la plaine marécageuse sur laquelle couraient, dans le moment, de gros nuages noirs bousculés par le vent d'ouest, dernier lambeau de l'orage de pluie qui, tout l'après-midi, avait mêlé les eaux du ciel aux eaux de la terre, Christine ne comprit enfin ou crut comprendre pourquoi Bénédicte Masson, chaque fois qu'elle lui parlait de Corbelières-les-Eaux, lui avait dit « Oh, surtout n'y venez pas !» Elle n'avait jamais rien vu d'aussi triste au monde. Et c'est là qu'il vivait. C'est dans cette mortelle solitude qu'il était allé se réfugier après la scène brutale, presque tragique, qui les avait séparés. Elle ne lui en voulait pas. Au contraire, elle se condamnait. Tout avait été de sa faute. Pourquoi s'était-elle montrée si tendre avec Bénédicte ce soir fatal? Certes, elle n'avait aucune coquetterie à se reprocher. Elle s'était laissée aller très naturellement à des confidences qu'elle n'eût point faites à un autre parce qu'elle l'éprouvait pour celui-ci, pour son caractère si particulièrement sauvage, pour son talent si ardent qu'elle n'hésitait point à le qualifier de génie, pour tout son individu moral une sympathie, une attirance presque irrésistible. Seulement, voilà, elle n'avait pas pu surmonter un mouvement de dégoût à son approche physique. Ce baiser de l'homme laid, elle n'avait pas été assez forte pour le subir. Eh bien, elle aurait dû prévoir cela et ne pas mettre, par son attitude imprudente, Bénédicte Masson en droit de le lui demander. La scène de rage, d'imprécation qui s'en était suivie, elle voulait l'oublier. Elle avait été insultée, même frappée, enfin rejetée loin de lui, comme un objet de haine qu'il voulut réduire en miettes. Et il était venu s'enfouir ici. Où? Dans quel coin? Qui la conduirait chez lui? La nuit venait. Ce soir-là, elle ne se sentait pas très brave. Vraiment, ce pays l'impressionnait, lui mettait déjà sur les épaules comme un suaire humide et glacé. Elle pensa à retourner à Paris par le premier train. Elle reviendrait le lendemain, au grand jour, avec Jacques. Mais voilà que la triste, angoissante, désespérée figure de la marquise lui apparut dans l'agonie du jour et lui montra son agonie à elle au fond du château de Couderet. La pauvre femme, une fois de plus, l'aurait-elle appelée vainement? Christine arriverait-elle que lorsqu'il serait trop tard? La dernière phrase de la dernière lettre lui passa devant les yeux. « Et maintenant, accourez, car il va me tuer si je ne meurs pas assez vite. » Un gamin, sorti de l'unique auberge, examinait sournoisement cette belle dame qui semblait ne savoir où se diriger. Elle lui demanda « Sais-tu où demeure Monsieur Bénédicte Masson ?»« Ah, le Pont-Rouge » fit-il. « Bien sûr que je le sais. C'est encore moi qui lui faisais ses provisions il y a 8 jours, avant Annie. »« Mais qui c'est ça, Annie ?»« Eh bien, c'est sa dernière. » Il raconte que c'est sa petite nièce. C'est elle qui vient faire ses provisions maintenant. Mais voilà 2 jours qu'on ne l'a pas vue. Encore une qui a dû se sauver comme les autres, sans demander son reste. Veux-tu me conduire chez M. Bénédicte Masson ? Et elle lui tendait une pièce de 40 sous. Le gamin sauta sur le pourboire et dit simplement « Ah, suivez-moi, je m'appelle Philippe. » Avant d'aller plus loin, il est peut-être nécessaire, pour l'intelligence de la chose qui va suivre, de jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé ou sur ce qui a pu se passer à Corbelières depuis la scène de l'arbre vert qui avait mis aux prises le père Violette et Bénédicte Masson. Nous nous rappelons que ce dernier avait menacé le garde de le prendre responsable du départ de sa petite nièce Annie si celle-ci s'en allait comme les autres. Là-dessus, la mère Muche avait conseillé la prudence au père Violette, mais celui-ci n'était pas homme à se laisser intimider. Il ne changea rien à ses habitudes, tournant autour du pavillon habité par le relieur et guettant Annie quand elle allait aux provisions. Alors il se risquait à montrer sa figure entre les roseaux, mais elle passait son chemin, hâtant le pas, évitant toute conversation avec l'ancien garde, obéissant certainement à la consigne que Bénédicte Masson lui imposait. Cependant, le surlendemain, comme il était en train de nettoyer son bachot devant sa hutte, il vit apparaître la jeune fille qui avait un air fort effrayé.
« Oh, monsieur, soupira-t-elle, vous n'auriez pas vu par hasard ces clés ?»«
De quoi ?» fit l'autre en fronçant les sourcils.
« Et ces clés, il les a perdues, il les cherche partout. » Il était dans un état à faire frémir. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Ah, on croit connaître les gens. Mais pour un trousseau de clés, j'ai pensé qu'il allait me briser. Mais je ne les ai pas vus, moi, les clés. Et maintenant, il les cherche dehors. Il est dans la petite soleil, à fureter partout, comme un chien, le nez entre les herbes.
Le père Violette était très intéressé par ce que lui disait Annie. Il alluma son brûle-gueule et laissa entendre un gros rire. « Oh, pour ce qui a volé chez lui, il pourrait bien laisser les portes ouvertes. Qu'est-ce qu'il veut qu'on en fasse de ses clés et à quoi cela lui sert-il? Il s'imagine peut-être qu'il a un trésor. »
« Mais ah, monsieur, il ferme tout derrière lui, et je n'ai pas le droit de descendre dans la cave. Oh, il a des manies incompréhensibles. Ce n'est pourtant pas un méchant garçon.
Ben, tout à l'heure, tu me disais qu'il a failli te mettre en morceaux. Il faudrait tout de même s'entendre.
Ben, assurément, il est coléreux quand ça ne va pas à son idée.
Hé, qu'est-ce que c'est que son idée ? Pourrais-tu me le dire? T'en sais peut-être bien plus long que moi là-dessus. » Et mit l'autre avec un coup d'œil en dessous vers Annie. Mais celle-ci ne comprit pas ou fit celle qui ne comprenait rien. On n'est jamais sûr de rien avec ces gamines. Elle répondit naïvement.
Mais pour le moment, son idée, c'est de ravoir les clés.
On entendit alors la voix de Bénédicte au loin. « Annie, Annie !»«
Oh, je me sauve. S'il savait que je vous ai parlé, j'en entendrais de toutes les couleurs. »
Le lendemain, le père Violette eut l'occasion de reparler avec Annie, ou plutôt, ce fut elle qui lui adressa la parole.
« Ah, il les a retrouvées, ces clés !»
Où qu'elles étaient?
Je sais pas. Il me l'a pas dit. Il m'a dit seulement qu'il les avait retrouvées. Et il avait un regard, du reste que je n'oublierai jamais. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Il n'est plus du tout avec moi comme dans les premiers jours.
Oui, on connaît ça, ricana le père Violette. Les premiers jours, tout venu, tout beau, tout beau.
Mais dites donc, monsieur Violette, comment qu'ils sont partis, les autres?
Ah, ma petite, ça, on ne sait pas.
Enfin, quand elles sont parties, on a bien dû les voir passer. Moi, je suis venu avec une malle. Je ne dois pas être la seule. Si je voulais m'en aller, il me faudrait bien un charton.
Tu veux donc t'en aller, Annie? Eh bien oui, là, j'ose pas lui dire. J'ai peur ici. Il sait que je vous ai reparlé. Il m'a fait une scène. Attention, le voilà qui sort de la maison.
Et elle se glissa derrière une haie comme une couleuvre. Le jour suivant, le père Violette se trouvait à 7 heures du matin à l'orée du village, caché derrière un vieux mur, attendant la petite. Il savait qu'elle allait venir aux provisions. Quand elle passa, il montra le bout de son museau barbu. Elle courut le rejoindre, haletante. Ah, je vous cherchais, je ne veux plus rester là. Je ne veux plus rester là. Eh bien, fous le camp tout de suite. Mais je ne peux pas partir sans ma malle. Oh, s'il n'y a que ça, j'irai la chercher, moi, ta malle. Oh non, ne faites pas ça, il arriverait un malheur. Oh, ce qu'il est monté contre vous. Mais voilà ce que vous pourriez faire. Envoyez-moi Bicot, le garçon de l'auberge, avec un charreton vers les 3 heures. Le pot rouge, c'est bien comme ça qu'on l'appelle à Corbinière, sort tous les jours après le déjeuner et va rôder dans les herbes, je ne sais où, faire sa sieste. On ne le revoit pas avant 4 heures. Bicot prendra ma malle et je le suivrai. Vous surveillerez de loin. Mais ne vous montrez pas. Je vous dis car il pourrait y avoir du vilain. Et ce n'est pas vous qui arrangeriez les choses. Je vous le dis. Le soir même, à l'arbre vert, le père Violette rapportait à la mère Muche la dernière conversation qu'il avait eue avec Annie. J'ai fait ce qu'elle a voulu, lui expliqua-t-il. J'ai prévenu Bicot. À 3 heures, je me tenais prêt à tout derrière la petite Saulaye. Bicot est arrivé avec son charreton. Il a sifflé, et la fenêtre de la chambre s'est ouverte. Mais c'est le Bénédicte Masson qui a montré sa sale gueule. Qu'est-ce que vous voulez? A-t-il demandé rudement à Bicot. Ben, monsieur, viens chercher la malle d'Annie, a répondu l'autre qui n'était pas à la noce. Annie a changé d'avis, elle ne part plus, lui a jeté le bénédict et il a refermé la fenêtre. Et le Bicot est rentré au village avec son charreton. J'avais bien envie de me montrer, mais je me suis dit, à quoi bon, ça pourrait tout gâter, il vaut mieux attendre la petite. Mais la petite n'est pas ressortie, pas plus que le bénédict du reste. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Muche? Ben, je te répète ce que je t'ai dit un jour. J'ai vu la figure de cet homme-là une fois, m'en souviendrai toute ma vie, quand il est arrivé avec son bâton dans la cour et qu'il s'était mis comme un sauvage, un vrai pot rouge, oh, c'est le cas de le dire, et qui te cherchait partout. Je te répète donc ce que je souhaite pour toi, c'est que celle-là ne disparaisse pas comme les autres. Mais nom de Dieu, si c'est lui pourtant qui les fait disparaître. Raison de plus. Ben demain, Mère Muche, je viendrai vous dire ce qu'il en est. Je guetterai la petite à Corbillère quand elle viendra aux provisions. Mais la Mère Muche ne revit pas le père Violette le lendemain ni les jours suivants. Elle ne devait plus le revoir jamais. Enfin, comme l'avait dit le gamin qui conduisait Christine dans les sentiers bourbeux du marécage, quand Mademoiselle Norbert arriva à Corbillière, on n'avait pas revu la petite Annie depuis l'avant-veille.
Et maintenant, continuons notre chemin avec Christine vers la demeure de Bénédicte Masson, qui, dans le soir tombant, mêlait son ombre triste aux reflets funèbres de l'étang aux eaux de plomb. Le vent soufflait de plus en plus fort, humide et glacé, échevelant les saules pâles et tordus, fantômes frissonnant au-dessus des roseaux courbés qui faisaient entendre leurs plaintes chantantes, ululantes, tantôt horriblement sifflantes, comme si elle avait passé par mille et mille chalumeaux, tantôt douces comme le dernier souffle de la terre et des eaux, pour reprendre aussitôt avec une fureur déchaînée. Il y avait un quart d'heure qu'il marchait, le jeune Philippe roulant dans la boue comme dans son élément, Christine essayant d'éviter les flaques, la jupe claquant comme un drapeau, les deux mains à sa toque de voyage, luttant avec le vent qui semblait avoir pris le parti définitif de la lui arracher, quand soudain, ils s'arrêtèrent. Au-dessus de la demeure funèbre de Bénédicte venait de s'élever un tourbillon de feu. Flammes, cendres, flammèches s'échappaient avec un ronflement sinistre d'un des tuyaux qui surplombait le toit, et cet embrasement, rabattu de part et d'autre par les brusques sautes du vent, paraissait prêt à dévorer le chalet tout entier. « Mais c'est un feu de cheminée !» s'écria le gamin. « Et il ne s'en doute peut-être pas. » Alors ils se mirent à courir et se trouvèrent bientôt sur un petit pont de bois qui dressait son pilotis au milieu des roseaux et auquel ils s'accrochèrent à l'instant pour ne pas être emportés par la bourrasque. L'étang avait de vraies vagues gonflées de courants qui traversaient les marais environnants et venaient bouillonner là comme dans une cuve. Il y eut soudain une traînée de sang, reflet de la flamme qui ronflait au-dessus du toit, et dans ce reflet, il y eut un cadavre. Il arriva du fond de la nuit, porté par les eaux en tumulte, et se jeta au-devant de Christine et de l'enfant qui l'accompagnait, comme s'il pouvait encore quelque chose pour lui. Muets d'horreur, tous deux le regardèrent glisser sous le pont, les bras étendus, sa face déjà décomposée, ouvrant une bouche d'où semblait s'ouvrir un dernier sapel dans la plus horrible grimace. « Le père Violette !» put enfin s'écrier le petit Philippe quand il eut retrouvé son souffle. Mais il se reprit à courir, mais cette fois dans la direction contraire, laissant là Christine, rentrant à corbillère de toute l'agilité de ses petites jambes, décuplées par la terreur. Quant à mademoiselle Norbert, se voyant abandonnée, elle n'hésita pas à courir comme un refuge vers le chalet où il lui fallait du reste avertir Bénédicte Masson du danger qu'il courait avec ce feu de cheminée qui ne cessait pas, bien au contraire. Heureusement que le vent venant de s'établir au sud-ouest rejetait tout le panache incendiaire loin du toit, du côté de la petite saulaie dont les arbres accroupis surgissaient de temps à autre de la nuit tragique avec des bras tordus, torturés, suppliants. Il est facile de se rendre compte de l'état d'esprit dans lequel Christine arriva à la porte du chalet. L'aspect sinistre du pays qu'elle venait de traverser, la vision de ce cadavre que des eaux bouillonnantes avaient apporté à ses pieds comme l'offrande diabolique de ces lieux funestes, ces flammes qui s'échappaient de ce toit, cet enfant qui s'enfuyait en hurlant d'horreur, tout contribuait à la jeter pantelante sur ce seuil où elle n'avait plus d'espoir qu'en Bénédicte Masson. Son poing eut à peine la force de frapper, mais un grand cri s'échappa de ses lèvres. Bénédicte! Bénédicte! Auquel un autre cri derrière la porte répondit d'une façon terrible. Un cri, disons plutôt un hurlement, qui était en même temps un monstrueux blasphème, une clameur effrayante qui se continuait en imprécations délirantes et qui frappa Christine au cœur. Et la porte ne s'ouvrait pas. Contre cette porte, Christine agonisait maintenant d'horreur à cause de ce cri, plus affreux encore que tout ce qu'elle avait vu et entendu depuis qu'elle avait mis le pied sur cette terre maudite. Sa bouche gémissait encore. « Bénédicte ! Bénédicte !» Mais comme si elle demandait grâce à son bourreau. Et la porte enfin s'ouvrit. Et il eut la vision fulgurante d'un monstre qui emportait une jeune femme au fond de son enfer. Et puis la porte fut refermée, tandis que, tout là-haut, le panache de flammes se redressait avec une fureur nouvelle, tourbillonnante, dévoratrice, semant sur les arbres agenouillés de la Saulaie ses cendres et ses scories funèbres, les enveloppant d'une odeur de mort. Pendant ce temps, le petit Philippe était arrivé au village et y avait répandu l'alarme. Philippe était le fils du bourrelier, mais il ne courut point en arrivant à la boutique de son père. Instinctivement, il se précipita dans l'auberge, où il était à peu près sûr à cette heure, celle de l'apéritif, de rencontrer tout ce qui comptait de forces défensives dans le pays. Le garde champêtre, le tambour de ville ou appariteur, deux ou trois gars qui faisaient plus ou moins métier de braconniers dans le marécage et qui gardaient toujours leur poudre sèche, tous gens qui faisaient bon ménage, s'entendant comme larrons en foire, et qui depuis longtemps avaient accepté la tutelle dominatrice du père Violette, bon maître du domaine que le seigneur lui avait départi, et y laissant de quoi vivre à ses sujets, pourvu que ceux-ci ne lui marchandassent ni leur admiration ni son autorité. Tous d'accord, du reste, dans la même haine, celle de l'intrus, de ce sauvage, de ce peau-rouge, qui semblait n'être venu là que pour les narguer, pour les gêner dans leurs habitudes et pour les mépriser, puisqu'ils n'aimaient ni la chasse ni la pêche dont ils vivaient. Quand le gamin leur eut appris, dans un langage entrecoupé par l'épouvante, que le cadavre du père Violette naviguait entre deux eaux, sous les pilotis du pont près de l'étang, ils se levèrent tous unanimes. « C'est le Peau-Rouge !» Du reste, il n'en était pas à son premier coup. Il y avait beau temps que, dans le pays, il faisait figure d'assassin. De l'arbre vert à Corbillère, nul n'ignorait non plus l'animosité qui existait entre les deux hommes, sans compter que, dans ces derniers temps, le père Violette n'était pas le seul à se demander ce qu'était devenue la petite Annie. Chapitre 20. Ce qu'il advint de la septième. 5 minutes plus tard, ils étaient une vingtaine du village, tous armés, qui de fusils, qui de bâtons, de fourches, prêts à entrer en campagne contre le Peau-Rouge. L'appariteur était allé chercher son tambour et en avait eu toutes les peines du monde à l'empêcher de battre sa caisse. Il n'en prit pas moins à la tête de l'expédition, une baguette dans chaque main, décidé à faire entendre une charge héroïque dans le cas où sa petite troupe faillirait au moment de l'assaut. Le petit Philippe trottait à côté de lui. De l'un à l'autre, on se recommanda le silence, et l'on arriva ainsi à la queue-leu-leu, à cause de l'étroitesse du sentier, jusqu'au pilotis du pont où le père Violette les attendait avec sa figure de papier déjà demi-mâchée par la mort, par l'humidité, par la morsure des poissons, et avec le trou noir de sa gueule ouverte qui leur criait « vengeance ». Une sourde exclamation courut tout le long de la file indienne. Deux d'entre les gars descendirent dans l'eau clapotante, éclairée seulement par le fanal sinistre qui brûlait plus fort que jamais au-dessus de la demeure du brigand. Ils tirèrent le corps sur la berge. « Bon, sûr, il y a bien 24 heures, qui boit plus qu'elle s'assoiffe. Il y eut un court conciliabule, ce feu violent, inexplicable, qui sortait en rugissant de la maison maudite leur faisait peur. Ce serait-il qui voudrait se brûler? Il a peut-être foutu le feu à sa bicoque avant de foutre le camp. Enfin, ils décidèrent d'entourer le chalet et résolurent de s'y précipiter tous à la fois à un signal. « Le signal, c'est moi qui le donnerai !» souffla l'appariteur. La porte fut enfoncée sans résistance. Les premiers s'arrêtèrent sur le seuil comme médusés. Cependant, sans s'occuper d'eux, Bénédicte Masson, à genoux, répandait de l'eau sur le visage de marbre de Christine évanouie. Près de là, dans un panier, un tas informe de débris attendait d'aller rejoindre dans la cuisinière, d'où s'échappait une épouvantable odeur de graisse brûlée, les autres restes d'Annie qui se consumaient dans une flamme attisée par le pétrole. Bénédicte Masson, tranquillement, soignait l'une de ces dames pendant qu'il brûlait l'autre. Chapitre 21. Je suis innocent. Il fut quasi assommé. Ce n'est que lorsqu'il ne remua plus que les gars de Corbillère cessèrent de frapper de leurs bâtons et de leurs fourches, et encore le bourrelier, le père du petit Philippe, proposa-t-il d'en faire des morceaux comme Bénédicte Masson avait fait de la petite Annie et de les jeter dans la cuisinière. Sans l'arrivée des gendarmes, c'était peut-être bien ce qui serait survenu, tant la fureur des campagnards était extrême et, tout bien considéré, fort excusable. « Ne le sauvez pas de la guillotine, qu'il respire au moins jusque-là !» prononça le brigadier. Alors ils laissèrent Bénédicte pour s'occuper de Christine, qui n'ouvrait toujours pas les yeux. « Encore une qui l'a échappé, belle !» fit entendre le tambour de ville. Et chacun fut de cet avis. Ce n'est que dehors, sous le coup du grand air et de l'humidité, que Christine donna quelques signes de vie. On était allé chercher une charrette, et tous deux y furent hissés. À Corbillière, Christine fut mise dans une chambre de l'auberge. Elle avait une forte fièvre et elle délirait. Quant à Bénédicte, que l'on avait jetée sur une botte de paille dans l'écurie, et que les gendarmes veillaient moins dans la crainte qu'il ne s'échappât que pour qu'on ne l'achevât point, il poussa un profond soupir vers les 2 heures du matin, se dressa sur son séant, se passa la main sur son front moulu par les coups, sembla, à la lueur de la lanterne accrochée à la muraille, chercher quelqu'un qu'il n'aperçut point, découvrit enfin sur le seuil, assis sur des sacs, les 2 gendarmes qui le regardaient, et dit fort distinctement, et sans émotion apparente, « Je suis innocent !» Les représentants de la maréchaussée ne le contredirent point. Alors il demanda de l'eau. « Il me semble que je boirai une cuve, » fit-il. Un gendarme lui apporta de l'eau dans un seau qui servait pour les chevaux. Il but à même à sa soif qui était longue, puis il se mit le torse nu et lava ses plaies. « Ils n'y vont pas de main morte, les gens de Corbière !» déclara-t-il. Il se mit à rire. Les gendarmes en avaient froid dans le dos. Ils l'ont dit depuis, jamais ils n'avaient entendu un rire pareil. C'était à abattre ce monstre sur place, à coups de revolver pour ne plus l'entendre. Ce fut bien autre chose quand il se mit à railler. « J'espère qu'on a pris soin de ma belle visiteuse, » fit-il. « Oh, c'est une jeune fille de famille qui n'a pas l'habitude des marécages. Elle aura pris froid, tandis que l'autre avait trop chaud. » Ils se jetèrent sur lui, lui passèrent les menottes. Il lui aurait mis un baillon. L'autre se laissait faire, sans résistance aucune, bien qu'il parût avoir recouvré toutes ses forces. Il hochait simplement la tête, en ayant l'air de les approuver. « Prenez vos précautions, on ne sait jamais. Je comprends que je ne vous sois pas sympathique. » Dans la grange, on avait mis le corps du père Violette, que la charrette était allée chercher dans un second voyage. Le brigadier avait bien demandé qu'on le laissât sur le sentier où il avait été tiré et où le trouverait la justice, mais ses amis de Corbière s'étaient refusés à le laisser passer encore une nuit sous la pluie et l'on avait apporté là dans une bâche. De temps en temps, il sortait de la salle commune et allait le voir, et il jurait de le venger. La sous-préfecture avait été prévenue. On attendait les autorités, la police, tout le tremblement. Oh, que c'était une affaire! Tout le monde était d'accord là-dessus. Une affaire dont on parlerait longtemps dans les quatre parties du monde. Un sacré procès! On ne savait pas, après tout, combien il en avait assassiné, le peau rouge. On ne lui connaissait que 7 victimes, 7 pauvres petites femmes qu'il avait ainsi découpées en morceaux, jetées au feu de sa cuisinière, mais il y en avait assurément bien davantage. Au matin, ils étaient si excités qu'ils voulaient ficher le feu à l'écurie, brûler le satyre. Heureusement, les autorités arrivèrent. Il n'était que temps. Menacés par tout ce tumulte, ces cris de mort, Bénédicte restait calme, d'un calme formidable qui impressionnait ses gardiens, lesquels se demandaient s'il serait assez fort pour le sauver une deuxième fois du lynchage. « Ouvrez-leur la porte, » leur dit-il. « S'ils veulent me découper, moi aussi, il ne faut pas les contrarier. » Il avait donné l'adresse de Christine pour que l'on prévînt son père. « La pauvre demoiselle, ça lui a porté un coup. Elle s'attendait pas à ce qu'elle a vu, bien sûr. Mais aussi, pourquoi est-elle venue ? Je lui avais tant recommandé de ne pas mettre les pieds dans ce pays. » Tout ce qu'il disait semblait être un aveu de ses forfaits, ou tout au moins conduire à cette conclusion qu'il n'y avait aucun doute possible à émettre sur sa culpabilité. Et cependant, il prononçait souvent ces paroles qui revenaient comme un leitmotiv. « Ben oui !» Tout cela n'empêche pas que je sois innocent. Se moquait-il des autres? Se moquait-il de lui-même? Le ton avec lequel il disait cela n'était pas très éloigné de la farce. Voulait-il se faire passer pour fou? Vos premières questions, ou plutôt à ses premières réponses, le juge d'instruction déclara « Nous sommes en face du genre cynique. » Ah, cynique, ça, il l'était. Il semblait prendre un plaisir sadique à l'horreur qu'il inspirait, et il faisait tout pour la décupler. Pendant la première nuit, on avait laissé le garde champêtre et l'appariteur au chalet, où ils avaient surveillé le feu sans y toucher, jusqu'à ce qu'il fût éteint. Les magistrats retrouvèrent tout en l'état, les restes d'Annie dans le panier, ses petits os carbonisés dans le poêle. On découvrit cependant des débris dans la cave. C'est là qu'il l'avait sectionné. On retrouva bien d'autres choses, les malles et les valises, enfin tout le bagage des 7 femmes disparues. Eh bien quoi? Qu'est-ce que cela prouve? Répliqua-t-il quand on lui opposa ce trop éloquent témoignage. Cela prouve que je suis un homme d'ordre. Quand elles reviendront, elles seront bien contentes de retrouver leurs petites affaires telles qu'elles les ont laissées. Nous saurons retrouver leurs cendres, s'écria le juge. Et peut-être ce jour-là, mettrons-nous fin à une attitude qui vous égale au pire monstre qui ait déshonoré le nom de l'homme. Je comprends votre indignation, monsieur le juge, et la fièvre qu'elle vous inspire, mais croyez-moi, il n'est pas bien sûr que vous retrouviez toutes ces demoiselles à l'état de cendre. Ce n'est pas une raison parce que j'en ai brûlé une pour que j'ai fait flamber les autres. Mais enfin, pour celle-là, vous avouez. J'avoue quoi? J'avoue rien du tout. J'ai toujours été trop habile de la vérité pour vous faire le plaisir d'avouer un crime que je n'ai pas commis. Ce n'est pas une raison parce qu'on découpe une femme en morceaux et qu'on la met dans son poêle pour qu'on l'ait tuée. Mais enfin, prouvez-nous que vous ne l'avez pas tué. Ah, ça, monsieur le juge, ça, c'est pas mon affaire. Je ne suis pas magistrat, moi. Je ne suis pas payé par le gouvernement pour faire des enquêtes tendant à établir l'innocence ou la culpabilité des citoyens. Pour rien au monde, je ne voudrais empiéter sur vos prérogatives à les travailler. Ainsi parlait Bénédicte Masson. Nous n'entrerons point dans le détail d'une instruction qui en effet a occupé le monde entier et qui est présente encore à toutes les mémoires. Plus les témoignages et les faits semblaient l'accabler, plus Bénédicte semblait en concevoir une joie farouche. Jamais son masque n'avait été plus puissant, ni naturellement plus odieux. En ce qui concerne le père Violette, il reconnut tous les propos menaçants qu'on lui prêtait. Il rendit hommage à la mémoire de Madame Muche, qui raconta avec force détail la visite du pot rouge à l'arbre vert et son entrevue avec l'ancien garde. Madame Muche avait trop prévu l'événement qui devait s'en suivre pour n'en pas tirer un juste orgueil. Si le père Violette m'avait écouté, il amorcerait encore ses lignes et poserait ses nasses. L'examen du cadavre du père Violette avait établi qu'il avait été pris comme au lasso, étranglé par une cordelette, puis jeté dans l'étang avec une pierre au pied. Mais la pierre devait avoir été choisie trop lourde, car elle avait rompu le lien qu'il attachait à la victime. Évidemment, faisait entendre Bénédicte Masson, quand on lui présentait les résultats de l'enquête. Évidemment. Un Peau-Rouge doit savoir lancer le lasso. Je vous dirais que je ne sais pas lancer le lasso, que je ne parviendrai pas à vous convaincre, monsieur le juge. Tout de même, j'attends que vous déposiez ce sacré lasso sur la table des pièces à conviction, à côté de mon petit panier, à transporter les restes et de ma cuisinière. On était allé interroger Christine chez elle, et sur l'avis des médecins, on put, du moins pour le moment, lui éviter une pénible confrontation. Aussi bien elle eût été inutile, l'inculpé ne contrisant en rien les dépositions de Mademoiselle Norbert. Celle-ci fit son mea culpa. Son grand tort avait été d'avoir pitié d'un être particulièrement disgracié de la nature et qui, à cause de cette infortune même, lui avait paru intéressant. La misanthropie du relieur d'art de l'île Saint-Louis, sa sauvagerie, son extravagance, la sombre poésie de ses élucubrations, son langage, tantôt enthousiaste jusqu'au plus désordonné, lyrisme tantôt brutal comme celui d'un portefeuille, elle avait mis tout cela sur le compte d'une laideur qui isolait Bénédicte Masson de l'humanité. Elle s'était penchée sur cette douleur, elle s'était heurtée à un bourreau. Quand la porte du chalet de Corbillière s'était ouverte, elle avait eu en face d'elle une espèce de fou, couvert de sang comme un garçon d'abattoir, et qui finissait de lancer dans les flammes les restes déchiquetés d'un corps humain. Et puis, elle ne se rappelait plus rien. Elle se demandait seulement comment elle n'était point morte de cette vision exécrable. Ben, assurément, soupira Bénédicte Masson quand on lui rapporta les termes de cette déposition. Assurément, la pauvre enfant n'a pas été grattée. Elle ne méritait pas ça. Misérable, ne put s'empêcher de lui répliquer le juge. Vous prévoyez qu'elle pouvait vous surprendre au milieu de vos forfaits quand vous lui défendiez de venir vous voir à Corbillères-les-Eaux. Ah non, non, monsieur le juge, non, non, je ne prévoyais point mes forfaits pour parler comme vous un langage dont la noblesse ne se rencontre plus guère que dans les tragédies classiques. Si je n'invitais pas Mademoiselle Norbert à faire un petit tour à Corbillières-les-Eaux, c'est que le paysage n'y est pas joli.